So Much Drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques. Qu'en est-il du théâtre et de la scène? Quel est son champ d'action? Que raconte-t-il encore de notre monde? Comment se renouvelle-t-il? Je suis Aurélie Ruby, je me suis réveillée un matin et je me suis demandé pourquoi j'avais consacré ma vie au théâtre, tout simplement. Cet art qui est à la fois un art ancestral et un art du présent perpétuel, qui peut être partout et qui s'enferme dans la noirceur des salles, qui n'est pas complètement à la pointe mais qui n'a pas disparu. Et j'ai décidé d'inviter celles et ceux qui avaient eux aussi la folie d'y consacrer leur vie. Juste avant qu'elle ne se prépare pour entrer en scène à la Manufacture des Abbesses, je retrouve Caroline Sahuquet, comédienne et metteuse en scène. Tu m'as tout de suite dit que tu aimerais bien faire la conversation avec tes partenaires de jeu, Flore, Mia et Delphine. Ça m'a paru spontané et sororal. En général, j'ai l'habitude d'échanger avec une seule personne et puis je lui écris une introduction qui est généralement alors, la touche ou la gêne, la flatte, la fait sourire ou des fois la fait réagir violemment, directement. Donc j'étais un peu troublée, j'ai accepté et puis ensuite je t'ai demandé si finalement on pouvait parler que toutes les deux, mais finalement Flore est aussi avec nous parce que vous êtes complémentaires.
Absolument, oui.
Alors, en septembre, tu faisais partie de l'équipe qui a fondé le festival WeToo.
Oui, carrément.
Donc, 2 jours de spectacle, conférences, réflexions féministes. Il était spécifié que c'était un festival familial.
Oui, festif, féministe et familial.
Voilà. Et c'était le premier festival auquel j'ai assisté en région parisienne depuis le basculement covidique du monde.
Oui.
Il y a quelques mois. J'y ai acheté des livres de Paul Preciado et, assise sur un banc, une jeune femme s'est approchée de moi pour me raconter à l'oreille l'histoire de la sœur méconnue de Mozart. Tu as mis en scène 2 projets, notamment en tout cas, qui tournent actuellement. Le spectacle documentaire Speculum que j'ai vu, qui retrace l'histoire des violences gynécologiques, et Tout sur le rouge, d'après le texte de Élise Thiébault, sur le thème des règles.
Absolument. Alors, Speculum, on l'a coécrit, co-mis en scène et co-joué toutes les trois, Delphine Biard, Flore Grimaud et moi-même.
Ok, tu vas pouvoir revenir dessus après, sans souci. Alors, c'est peut-être une question de génération, mais en fait, pendant la représentation de Speculum, je me suis imaginée à 15 ans face à ce spectacle et je me suis dit, j'aurais gagné un temps fou. Donc c'est ça, en fait, je pense que votre spectacle fait gagner un temps fou à beaucoup de gens, à tous les spectateurs certainement, peut-être aux programmateurs aussi. Donc j'y ai vraiment apprécié l'humour inconditionnel, la précision des recherches, la vérification des sources, l'efficacité du jeu, et le tout sans faire la morale à personne. Bravo. Et puis j'ai eu plein de questions qui me sont venues, comme « mais est-ce qu'elle le joue dans les écoles ?» quel impact a eu ce projet dans leur vie, est-ce qu'elles considèrent fondamentalement ce spectacle comme féministe ou pas, est-ce qu'on embauche facilement une actrice qui se dit ouvertement féministe, quels sont les retours du public masculin, quelles sont les réactions les plus surprenantes que vous avez pu avoir dans ce spectacle, comment avez-vous travaillé et où avez-vous eu l'énergie pour aller jusqu'au bout d'un tel projet?
C'est Caro qui nous a réunis.
Alors, je ne sais par où commencer. J'ai l'impression que je vais répondre par les questions dans l'autre sens. Comment on a trouvé l'énergie? D'abord, parce que, justement, ce spectacle a changé nos vies, et petit à petit. C'est-à-dire qu'il y avait un désir impérieux et profond juste après les attentats de novembre, de plus du tout aller sur scène pour dire quelque chose qui n'était pas absolument nécessaire. En fait, quand on a participé, on s'est retrouvé à une soirée de veillée en hommage aux victimes, et on s'est retrouvé après quelques années où on avait fait un stage ensemble. Et ça a été une sorte d'évidence de se dire toutes les trois, donc Delphine Biard, Flore Grimaud à côté de moi, et moi-même, et à l'époque Kelly Rivière aussi, qui participait à l'écriture, demander aux gens de se taire pour nous parler pendant une heure et demie, deux heures, en fonction du spectacle. Il faut leur raconter quelque chose de puissant. Et pour ça, il faut que ça soit sincère. Donc on est d'abord parti de notre vécu et de notre rapport à nos corps. Et on s'est très vite rendu compte, avant même que le mot existe tel quel, c'est-à-dire maltraitance gynécologique, quelques journalistes en avaient parlé, mais nous on n'en avait pas pris connaissance, qu'il y avait vraiment un sujet très fort, inexploré, sur cette question de la bientraitance médicale, spécifiquement sur le corps des femmes. Et en réalité, on ne savait pas à ce moment-là qu'on faisait un spectacle féministe. Si on doit être parfaitement honnête, ce spectacle nous a transformés en tant que femmes, que mères, puisqu'il se trouve que Delphine et moi, on a été enceintes pendant la création du spectacle. Et que c'est même un moment du spectacle où ma tante me dit, et tout ça est totalement réel, mais dis donc, t'es complètement tarée de faire un spectacle sur les maltraitances gynécologiques dans ton état. Et je dis, mais non, c'est le moment idéal, au contraire. Avant, j'avais l'impression que ça ne me concernait pas, et après, ce sera trop tard. Et ce spectacle a probablement sauvé ma grossesse, sauvé ma vie de femme enceinte et mon accouchement. J'aurais jamais eu le même rapport à tout ça. Et maintenant, encore moins à ma maternité. C'est-à-dire que là, j'ai plus jamais envie de faire un spectacle autrement que de cette manière, c'est-à-dire avec un profond engagement militant et un ancrage féministe assumé et total. Et donc oui, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile à vendre. C'est beaucoup plus difficile de créer une mécanique de production au départ. Bien que, et c'est là contre toute attente, c'est probablement le spectacle que j'ai fait qui a eu le plus de succès, le plus d'histoire, et plus de vie, et le plus de continuité. Parce que c'est ce paradoxe-là qui fait que on avait, quand on a commencé le spectacle, deux réactions un peu antinomiques. La plupart des gens nous disaient, mais voilà, t'es complètement, enfin vous êtes taré, c'est un spectacle sur maltraitance gynécologique, personne n'en voudra. En revanche, si tu veux, moi je veux bien te raconter mon accouchement ou celui de ma mère, ça a été terrible, oh là là, même. Et on s'est rendu compte que, en fait, on ouvrait une sorte de boîte de Pandore de libération de la parole et que le théâtre devait, entre autres, enfin pouvait servir à ça et que qu'il y avait quasiment un côté thérapeutique, militant. Et après, là où on a été maligne, c'est pas très modeste, mais c'est vrai, on s'est rapproché de tous les gens qu'on a voulu interpréter. Et du coup, on a été faire un travail d'enquête très précis, et ce travail d'enquête a été également un grand travail de communauté. Et ensuite, on a eu le soutien de Chantal Birman, de la journaliste qui du spectacle, comme elles ont pu voir le travail, le cautionner pleinement. Après, on a commencé à travailler, on a joué tout de suite à la Manufacture des Abbesses. La vraie première a eu lieu en janvier 2019 là-bas, mais on avait déjà 2 ans où on a fait d'abord de la rue, ensuite des avant-premières, où on a fait un travail de fond comme ça pour présenter le spectacle dans d'autres contextes. Et ce qui fait que la salle s'est remplie, un bouche à oreille de fou s'est créé, mais probablement parce qu'il y avait un besoin en fait. Et maltraitant gynécologique, personne n'en parlait, mais tout le monde avait besoin qu'on en parle.
Enfin, et en fait, tu considères que du coup, vous avez fédéré tous les gens que vous avez interviewés, ou il y a des gens que vous avez trahis? Enfin, trahis.
Alors,
tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais. Alors, en vrai, on a été ultra honnête par rapport à la parole qu'on propose sur scène. Il y a quelques personnes dont on donne la parole qu'on n'a pas interviewées. C'est des choses qu'on a trouvées sur Internet. Et on est très fidèle à ce qu'ils disent. Par contre, dans l'interprétation, on pose un regard subjectif, évidemment, qui oriente qui pose notre regard. Ça oriente pas, mais ça pose notre regard. Et là, probablement que si Israël Nizan, par exemple, venait voir le spectacle, c'est la seule personne qui n'est pas encore venue, il serait peut-être pas très très heureux de la manière dont on parle de son point de vue, mais sauf qu'il existe, qu'il est là et qu'il faut absolument qu'il soit entendu tel quel, parce que il est extrêmement problématique et que donc on le met face à d'autres paroles. Donc, mais sinon, on a été fidèles à tous les gens qu'on a interviewés.
On ne sait pas ce qu'Israël Mizé en penserait d'ailleurs. Ouais. Parce qu'on parle d'autres médecins hommes, comme Benoît de Sarcus, on parle de ce métier, et peut-être que voilà, Marie-Hélène Lahaye, pourtant qui nous soutient vachement, elle n'est pas gâtée non plus par...
L'interprétation, mais sa parole, voilà. Elle est super
voilà,
juste.
Voilà, mais tu vois, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec...
Oui, bien sûr.
Voilà, donc je ne pense pas qu'il soit non plus, on ne l'a pas...
Enfin, en tout cas, l'idée, c'était absolument pas de faire un spectacle anti-médecin et qui allait rajouter du problème au problème. C'est-à-dire que l'idée, c'était d'être comme un spectacle lanceur d'alerte. Alors, bien sûr qu'il prend en charge des paroles très, très problématiques, mais... comme un grand coup de pied dans la fourmilière, mais on n'est pas du tout les seuls. C'est clair qu'on a fédéré un truc et que, par exemple, Mélanie Deschalottes, qui a fait ce livre noir de la gynécologie qu'on cite, et ensuite le collectif Toutes contre les violences obstétricales, elles sont venues. Et c'est vrai qu'on a eu la sensation de faire partie d'une communauté de militantes qui œuvraient chacune à leur endroit. Et nous, on œuvre artistiquement. Et d'ailleurs, Mélanie Deschalottes nous l'a dit, mais vous êtes inattaquable, vous faites de l'art. Donc profitez-en, parce que grâce à l'art, vous pouvez...
Je pense que fait de s'être relié, fait que la parole, elle est plus forte.
Mm. Oui, mais justement, moi, c'était aussi une de mes questions, c'était comment est-ce que c'est facile d'articuler l'art et le militantisme ?
Non, c'est difficile. Mais de toute façon, en réalité, on ne sait pas exactement comment on a fait. C'est-à-dire que c'est un petit miracle, ce spectacle. C'est 2 ans et demi d'équilibrisme. On est sur un fil. Et d'ailleurs, l'interprétation se joue sur ce fil-là. Merci beaucoup pour tes commentaires, parce que c'est vrai que quand tu me dis qu'on fait la mort à la personne, c'est quelque chose qu'on espérait atteindre. Mais au moment où tu écris, au moment où tu fabriques, tu ne sais pas si tu n'es pas à un moment en train de basculer. Et on a des réajustements quasiment quotidiens. Et la difficulté artistique, c'est qu'on est 3 créatrices, on co-joue, co-met en scène et co-écrit, et il a fallu qu'on se co-dirige aussi artistiquement, donc ça arrive encore qu'on se dise attends, fais gaffe, là on a un petit peu basculé, peut-être qu'on a un peu forcé le trait là, est-ce qu'on reviendrait pas par rapport à telle scène qui a pris telle orientation. Et ce spectacle qui joue depuis 2 ans, il a la chance d'avoir des notes tous les soirs on se rééquilibre ensemble, et c'est pour ça aussi que pour moi c'est impossible de parler de ce spectacle seul, puisque c'est un travail absolument d'équipe, et toutes les 3 avec Delphine, on a vécu une histoire un peu magique, c'est vrai, parce que même Speculum, même le titre, personne n'en voulait. On a dû se battre pour le défendre. Personne voudrait d'un spectacle qui s'appelle Speculum, et nous on pensait que ce qui était le plus osé était un moment, passer un cap en fait. Quand c'est accepté, après c'est accepté pleinement. Et Speculum, ça veut
pas
dire.
Dans tous les lieux, on a des gros problèmes avec les théâtres, avec les programmateurs théâtre.
Voilà, c'est sûr que par contre, on doit être très honnête, on a bien produit ce spectacle, il vit sa 6e prolongation à Paris, mais quand on tourne, c'est toujours dans des contextes spécifiques.
Et dans les écoles, oui, ou jamais?
Non, encore dans les écoles. On a joué dans des festivals féministes, on a joué en rue, on est parti en Guyane pendant des comités de sages-femmes, on a eu des dates très, très spécifiques. Dans des lieux alternatifs, mais on n'a pas à vendre le spectacle dans un réseau classique. Ils n'en veulent pas, ils ont peur.
Tant ils le méritent vraiment.
Si, pour la journée de la femme.
Voilà, ils veulent nous.
Oui, mais c'est terrible. C'est aussi le problème globalement des spectacles qui traitent des sujets féministes.
Bien sûr, c'est terrible.
Mais là, c'est vrai que.
Mais là, c'est un problème politique. C'est-à-dire
qu'en plus. C'est politique, mais il y avait une dose d'information incroyable dans ce spectacle. Donc ça vaudrait vraiment le coup que les lycéens par exemple le voient.
Bien sûr, la bonne nouvelle, c'est que quand ils sont venus, parce qu'il y en a, il se trouve que comme on joue depuis 2 ans à Paris, il y a eu des classes qui sont venues et des jeunes élèves aussi, par exemple des élèves de cours, et c'est toujours des moments exceptionnels. C'est vrai qu'ils sont absolument ravis de ce qu'ils apprennent. Et oui, la question est bien sûr que, comme dans tous les théâtres, ce qui remplit beaucoup plus, c'est les femmes. Mais quand il y a des hommes, ils sont presque encore plus enthousiastes parce qu'ils ont appris encore plus de trucs. Ils sont encore plus éloignés du sujet. Ils sont et ils ont très très envie de venir avec leur fils, leur petit-fils, leur père. Ça arrive très souvent qu'on ait ce genre de témoignages. Et c'est vrai que ben le travail reste à faire. De toute façon, il a pas vécu sa vie en tournée du tout, et qu'on tient le coup même si c'est dur, et que les diffuseurs avec qui on a travaillé ont rencontré cette difficulté permanente de vouloir nous faire changer le titre, changer l'approche, bien expliquer que c'est drôle. Enfin, que dans notre dossier, il faudrait qu'on trafique un peu en fait pour raconter que bah c'est super drôle, qu'en fait c'est une comédie, que les gens vont rire, etc.
C'est le cas.
Ouais, mais c'est le cas, donc c'est vrai que c'est pas mentir que de le dire, mais c'est vrai que c'est comme si on devait faire passer ça devant toute l'information pédagogique et militante, parce que ça fait extrêmement peur, et surtout ce qu'elle rencontre comme problème, et ça c'est un autre souci mais que j'ai envie d'évoquer rapidement, c'est que aujourd'hui le directeur de théâtre, il est dépendant de la mairie, il est dépendant d'élus qui eux ils connaissent rien du tout au théâtre, et tu leur dis spéculum, maltraitant gynécologique, ça les terrifie, et donc, très très rapidement, entre ça et un projet plus fédérateur, plus populaire, il y aura toujours un dossier à côté d'une autre qui fait moins peur. Donc, ils arrivent à nous mettre dans une case de la journée de la femme. Je déteste cette idée, comme si, et c'est ça qui est terrible, pardon, le théâtre ne devait... le théâtre qui parle des femmes ne pouvait être que un seul jour par an. Enfin, c'est pathétique, quoi. C'est pathétique.
À ton avis, pourquoi le théâtre existe-t-il toujours dans cette société ?
Alors, parce que je pense que c'est le seul miroir sur le monde totalement universel qui pourra jamais être totalement attaqué. Enfin, je ne sais pas exprimer exactement comme je voudrais, mais il y aura toujours des résistants, il y aura toujours des penseurs qui pourront. En tout cas, pour moi, c'est le seul message d'espoir qui reste en ce moment, en temps de Covid. C'est qu'à un endroit, les artistes sont à la fois les philosophes, les pédagogues, les rêveurs, les penseurs, les politiciens, les engagés, enfin, ils mêlent un peu tout ça, et leur regard unique éclaire tout le monde.
Et qu'est-ce qui t'a amené au théâtre, toi, vous ?
Alors, moi, c'est un instit. Qui avait vu probablement chez moi une nécessité d'avoir un terrain d'expression différent. J'étais dyslexique et dysorthographique, et l'oral m'a sauvé la vie. Et j'ai vraiment compris que c'était ma maison, en fait. Quand j'ai commencé le théâtre à 6 ans, j'ai eu le privilège de ne plus avoir à me poser de questions. C'était là que je serais.
Donc c'est à l'école.
Et toi aussi ? Et pour toi, pourquoi il y a encore du théâtre ?
Oula, alors, parce que c'est militant, parce que c'est. Parce que justement, tu parlais de Brecht tout à l'heure avant. Et puis parce que c'est une histoire d'amour, en fait, t'es en vivant. T'es à deux. T'es sur scène, et puis t'es.
C'est quoi le premier spectacle qui t'a marqué ?
J'ai un peu honte, mais je sais que quand j'y pense, ma mère m'emmenait au théâtre à la Comédie Française, en tout cas. Dans mon souvenir, c'était la Comédie Française, c'était le Misanthrope avec Jacques Weber et Emmanuel Béart.
Pourquoi honte ?
Mais c'était. Non, c'est magnifique, mais c'était un classique terrible, et j'aurais bien aimé te dire. Non, mais si, c'était magnifique. Mais en fait, j'ai souvenir d'Emmanuel Béart et de Jacques Weber, et en plus, je me demande si c'est bien Misanthrope ou si c'est pas. Non mais si c'était Misanthrope, si c'est ça, j'ai sûr. Et après c'est peut-être ça, c'est un peu plus honteux. J'étais fan de Sophie Marceau et j'ai vu Sophie Marceau avec Lambert Wilson dans Pygmalion, ouais. Ça j'étais dingue. Il m'avait même signé un autographe.
Ta plus belle expérience de théâtre ?
De théâtre, c'est Spéculum sans aucun doute, ça dépasse tout. Et
Qui sont tes muses?
Mes muses.
Si t'en, si ouais. t'en as.
Mes filles. Donc ma belle-fille, Autonne, et ma fille Solveig.
Des mentors?
Des mentors, en ce moment, c'est plus les lectures que je découvre, notamment Monique Wittig, Paul B. Preciado. Là, je viens de lire Valérie et Robert sur la culture du viol. Là, en ce moment, je me prends de très, très, très grosses claques littéraires. Ouais. Donc, mentor, je sais pas, mais en tout cas, des guides.
Ouais. Mmh. À quoi es-tu fidèle?
Je décide d'être fidèle à mon féminisme aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement difficile, notamment quand t'es dans un couple hétérosexuel. Mais voilà, en ce moment, c'est ça mon grand défi, d'essayer de mêler les deux. D'où le We Too Festival, qui essaye aussi...
Familial.
Voilà.
De spécifier.
Voilà, d'essayer de concilier ces deux mots un peu fous, famille et féminisme. Et évidemment, je ne l'ai pas pensé toute seule, ça, on est six, hein, mais on est co-organisatrice d'un truc un peu ambitieux, ce qui a l'air très festif, mais qui n'est pas... voilà, qui n'est pas si léger du tout de qu'est-ce que le couple et un combat militant.
Et est-ce que tu as déjà trahi tes valeurs?
Est-ce que j'ai déjà trahi mes valeurs? Dernièrement, j'ai refait une expérience théâtrale pour vérifier que c'était plus du tout ça que j'avais envie de faire. Et j'avais bien raison de le penser. Et maintenant, c'est sûr, je n'y retournerai plus. À un certain endroit du théâtre qui n'est pas du tout le mien, sans forcément donner de précision, mais voilà, je sais aujourd'hui que seul un théâtre militant, féministe, engagé, a du sens pour moi, en tout cas. Et a du sens, surtout par rapport à l'emploi du temps. Abandonner sa famille et ses filles 3-4 fois par semaine, il faut que ça soit ultra nécessaire, quoi. Voilà.
Alors, celle-là, c'est une question que je pose à chaque fois. Est-ce que tout aurait été différent si tu avais été un homme?
Tu ne sais pas à quel point.
Surtout, tu pourrais nous chanter cette chanson.
C'est vrai qu'on s'est rencontrés à un stage où le premier contact qu'il y a eu entre Flore et moi, c'est que était à un stage où on devait se chanter une chanson entre participants au stage, ne s'étant encore jamais adressé la parole. Et la chanson que j'avais appris et que j'ai choisi de lui adresser, c'était « Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau. » Bref. Et parce que j'ai cette obsession de savoir qu'est-ce que ça aurait été si j'étais un homme. Mon père m'a pas trop aidée à pas avoir ce fantasme, puisque j'ai toujours cru que mon père aurait voulu un garçon. Du coup, oui, tout aurait été probablement très, très, très différent. Je serais probablement plongeur professionnel aux côtés de mon père et photographe aux côtés de mon père si j'avais été un homme.
Mais t'as une part de masculinité qui est grande, moi, je trouve.
Ouais, mais Caroline, ça veut dire viril, il paraît. ça vient de Carlos qui veut dire viril, mais moi je suis, grâce à Monique Wittig et à Paul B. Preciado, absolument convaincue qu'on est tous un peu tout et qu'on est beaucoup, beaucoup plus complexe que cette binarité qu'on voudrait nous impliger. Donc oui, bien sûr, je suis hyper ok avec mon masculin, si masculin ça veut dire viril, mais je pense qu'une femme peut être virile, donc c'est absurde. Enfin, je pense pas que ça soit ça qui définisse le masculin chez quelqu'un. C'est encore une question à laquelle j'ai pas répondu. Par contre, si j'étais un homme tel que la société nous catégorise, ça aurait été plus facile, surtout pour m'orienter dans la vie, probablement. Mais surtout, je serais plus riche, manifestement, hein, puisque si j'étais un homme, là, je toucherais des subventions que je n'ai pas parce que je suis une femme. Si j'étais un homme, probablement que on a fait beaucoup d'études comme ça dans le WeToo, hein, c'est les subventions du festival, on les aurait déjà. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui doit changer.
Donc, tu n'en serais pas là si.
Je n'en serais pas là si j'avais pas décidé de réunir Flore Grimaud, Delphine Biard et Kelly Rivière pour leur parler d'un projet commun il y a un peu plus de 5 ans maintenant, et de leur dire, en leur offrant un merveilleux plat de poisson farci que j'avais fait au fenouil, les filles, là il faut changer le monde et ça sera par le théâtre et moi je veux le faire avec vous. Et ce jour-là, je pense que c'est la plus belle inspiration que j'ai eue parce que depuis 5 ans, ma vie a changé et est devenue une vie d'artiste féministe militante et a pris un chemin voilà, qui ne pourra plus faire marche arrière jamais. Quoi.
Donc, j'arrive vers les dernières questions. Est-ce que tu aurais un conseil pour les générations futures ?
Très humblement, quand un élève, ça arrive souvent qu'on nous dise ah, tu veux, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ce métier ou qu'est-ce qu'il faut. C'est un truc hyper ballot, enfin très très confondant de banalité, mais franchement c'est réel. On n'est jamais aussi fort que pour les choses dans lesquelles on croit. Donc en fait, il faut choisir, il faut avoir des convictions fermes et profondes et beaucoup lire. Beaucoup, beaucoup lire.
Eh bien, justement, est-ce que tu aurais 3 livres de chevet à nous proposer ?
Ouais. j'ai envie de citer « Ceci est mon sang » d'Élise Thiébaud, « Petite histoire des règles et de celles qui les ont et de ceux qui les font ».
L'accouchement est politique.
L'accouchement est politique a été très important pour moi, de Béatrice Cascal et... J'ai un doute sur le nom, Laetitia Négrier, pardon. L'accouchement est politique, alors là, c'est bon pour les femmes qui ont un projet d'enfant.
Joli titre.
Voilà, hyper puissant. Moi, je l'ai lu pendant ma grossesse et ça a changé ma vie. Et là, dernièrement, bah, je vous en ai déjà parlé, mais je me répète, moi, je viens de lire La pensée straight de Maudine Wittig. Il y a un avant et un après, quoi. Voilà.
Ok.
Bon, il y en a, je pourrais en dire 10 000 autres, hein, mais disons que ces 3-là, c'est ceux du moment, quoi.
Ouais. Et est-ce qu'il y a un vers, une réplique ou une citation avec laquelle tu voudrais conclure cette conversation ?
Ouais. Attends, si j'avais pu le préparer, j'aurais sûrement sorti un truc génial. Mais c'est
ça
qui.
Je pose la question et votre rapport à la mort. Vous avez moins peur de la mort que nous ?
Eh ben, on est dans une société où la mort est complètement évacuée, hein, sauf dans les jeux vidéo, tout ça, mais c'est virtuel. Hein. Évidemment que moi j'ai moins peur de la mort que vous, hein, parce que c'est mon métier. Moi, je suis un des rares métiers où on voit encore mourir des gens, on voit mourir des enfants. On a trop ça. Alors bien sûr, ça dépend de son histoire personnelle, hein, bien sûr, hein, parce que moi. J'ai tendance à penser que forcément, quand tu fais ce métier de médecin, la mort, c'est ta deuxième nature. C'est une réplique de Spéculum, évidemment, et à la fin, il finit par dire, c'est une sage-femme qui dit...
C'est pour ça qu'on a envie de faire le Spéculum.
Ouais.
Oui, du coup, en prévision d'un prochain spectacle qui sera plus... autour du thème
de la mort.
De la mort.
Alors, c'est dit comme ça, évidemment, c'est pas beaucoup plus appétissant que les maltraitants gynécologiques, mais on pense qu'il y a 2 passages, en fait, et qu'on voudrait, ce serait le 2 revers d'une même médaille. Il existe des sages-femmes de la mort aux États-Unis. Ce passage-là, c'est l'autre endroit qu'on aimerait explorer. On nous vole notre accouchement comme on nous vole notre mort.
Mais la phrase avec. C'est la mort est politique.
Voilà, la mort est politique, ça c'est sûr. Mais la phrase avec laquelle j'ai envie de conclure, c'est ta réplique à toi. C'est on a donné une notion si péjorative au mot féminisme que plus personne n'ose se positionner en défenseur du droit des femmes sous peine de mériter cette étiquette. Mais la condition des femmes ne va pas en s'améliorant dans le monde, contrairement à ce qu'il est reposant de croire.
Merci beaucoup, Caroline.
Merci. Merci, merci à Flore d'avoir été à mes côtés. Ça m'a rendue plus forte.
C'était So Much Drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques, le rendez-vous théâtre proposé par Aurélie Ruby sur Art District Radio, à retrouver en podcast et en diffusion les mercredis et vendredis à 9h30 et 18h30.